Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission de débat sur votre radio.
Nous sommes mercredi 29 mars 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Mikado FM et de Studio Tamani à travers son réseau de 60 radios dans le pays. Débuté lundi dernier, les travaux de la conférence d'entente nationale se poursuivent au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Mikado FM et Studio Tamani vous font vivre cet événement à travers des interviews, reportages, débats et reportages, débats et interviews sur le site. Le grand dialogue ou la table ronde d'aujourd'hui ouvre la réflexion sur le rôle des jeunes et des femmes dans le processus de paix. Pour en parler, nous recevons Issa Bonkana Maiga, représentant de la jeunesse de Gao à cette conférence d'entente nationale, Dada Ag Agali, président du collectif des jeunes de Kidal, et Madame Oumou Touré, présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali. Je suis Issa Fakaba Sissoko pour la présentation de ce débat et je le fais avec ma consoeur Mam Diara Diop de Mikado FM. Mam, vous avez la parole pour la première question.
Merci Issa Fakaba. Effectivement, nous sommes au Palais de la Culture pour couvrir la conférence d'entente nationale qui a débuté depuis ce lundi. Et nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau d'éminents invités pour débattre de la question du rôle des femmes et des jeunes dans le processus de paix. Alors ma première question, elle est toute simple, je vais la poser à Madame Touré. Et je vais simplement lui demander aujourd'hui, à travers cette conférence d'entente nationale, est-ce que... D'abord les femmes, ensuite les jeunes. Est-ce que les femmes jouent-elles assez leur partition dans ce processus de paix, particulièrement dans cette conférence d'entente nationale ?
Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette radio qui couvre presque tout le territoire national. En fait, je pense, comme vous l'avez dit, par rapport à la question de participation des femmes à ce processus, nous avons été largement impliqués. Mm-hmm. Parce que les concertations au niveau des régions, on a insisté sur la participation des femmes. Au niveau du district de Bamako, c'est la même chose. Et au niveau national, je pense que la MINUSMA a même eu à financer un atelier spécifique pour que les femmes puissent avoir une position. Donc, réellement, nous pensons que nous avons été bien servis pour participer.
D'accord. Alors, justement, dans cette conférence, nous avons beaucoup de représentants des différentes régions. Est-ce qu'on entend assez leur voix ? Les travaux ont démarré depuis environ 3 jours. Est-ce qu'on entend vraiment leur voix ? Et qu'est-ce qu'elles disent ?
Vous savez, ce groupe est un groupe hétérogène. Et donner des points de vue par rapport à un groupe hétérogène, souvent c'est un peu difficile, mais je vois, tu sais, ce qui a changé, c'est que les femmes n'attendent plus qu'on leur donne la parole. Elles l'arrachent, elles ont quelque chose à dire. C'est des oiseaux qui ont envie de chanter, elles ont des chansons et elles se plaisent à le prendre. Souvent, vous savez, parler en public pose problème aux femmes. Mais avec tout ça, elles essaient d'arracher le micro, de parler parce qu'elles ont beaucoup à dire. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas habitués à parler en public, mais qui, dans les coulisses, nous rencontrent, nous, en tant que leurs responsables, en nous donnant leur point de vue. Et on sent qu'elles ont quelque chose à dire, elles ont quelque chose sur le cœur, et elles veulent partager et en finir avec un processus de conflit qui est sur leur dos.
Okay. Mme, lorsqu'on parle de femmes, on parle aussi de jeunes. Les deux vont ensemble. Nous avons la jeunesse de Kidal avec nous. Dada Ag Agali, dites-nous pourquoi la jeunesse de Gao a décidé de participer à cette conférence d'entente nationale. Quelle est la symbolique pour vous ?
La jeunesse de Kidal, bien sûr, pas Gao.
De Kidal.
Merci beaucoup d'avoir vraiment nous invités sur les plateaux. Et bien vrai que je suis président du collectif des jeunes de la région de Kidal. C'est une occasion aujourd'hui pour la jeunesse de Kidal de s'exprimer vraiment sur les tables et partager aussi ce qu'elle a avec la radio Tamani. Et sur ce, vraiment, j'ai pas très bien compris la question.
Non, la question était de savoir pourquoi, au niveau de la jeunesse de Kidal, vous avez décidé de participer à cette conférence d'entente nationale. Quelle est l'importance qu'elle reflète pour vous?
D'abord, l'importance de se retrouver en tant que Malienne ici et discuter des problèmes des Maliennes, et que de retour de cette conférence aussi d'entente, les autres aussi qui nous ont mandatés pour venir représenter cette jeunesse, vraiment attendre les fruits de la conférence d'entente, qui est vraiment de se retrouver tous à Kidal pour fêter vraiment la réconciliation nationale à Kidal.
Ok. Même si tu le permets, la même question peut s'adresser aussi à la jeunesse de Gao, qui a été quand même une actrice essentielle de la crise. Dites-nous, Monsieur Touré, en venant à cette conférence d'entente nationale, quel est le message de la jeunesse que vous apportez à ces assises-là?
Et d'abord, bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et le message de la jeunesse de Gao est clair, comme ça a été dit tous les jours. Et je l'ai dit dans nos interviews passées, que la jeunesse de Gao a toujours primé le dialogue au-delà des armes. Nous ne sommes pas des détenteurs d'armes pour aller faire la guerre, mais nous préférons que ce soit plutôt un dialogue. Donc, et c'est à travers aussi des activités très pacifiques que la jeunesse de Gao a toujours eu à réclamer son dû. Et leur attente, c'est quoi? C'est l'inclusivité. C'est toujours à ce que tous les acteurs, quand je dis acteurs, je parle de la nation malienne, soient présentes dans ces genres de conférences qu'on appelle conférences d'entente nationale. Parce qu'il faut savoir, j'aimerais souligner que l'accord ne doit pas être simplement un accord tripartite, qui, malheureusement, des fois, on tend un peu vers ça, que ce soit entre la CIMA et la plateforme et puis le gouvernement. Et je pense que tous les trois réclament quand même le bien-être des populations et disent aussi pouvoir revendiquer et le bien-être des communautés. Et je pense que personne n'est mieux placé pour parler des communautés qu'elles-mêmes. Voilà, donc je me dis que...
Quand vous parlez d'inclusivité, est-ce à dire que au sein des groupes armés, ceux qui prétendent parler en votre nom n'expriment pas forcément vos préoccupations?
Effectivement. Au fait, on ne les a même pas mandatés. Ça, il faut le dire très clairement. On n'a jamais mandaté aucun groupe armé à aller parler au nom de ces populations. Ils sont là à parler au nom des groupes armés, pas au nom des populations, ou particulièrement, je peux dire, au nom des jeunes. Les jeunes ont un responsable, ils ont leurs leaders, ils ont leurs responsables qui sont permis comme moi, qui sont permis de parler au nom des jeunes et pouvoir exprimer leurs besoins. Voilà, donc ils ne sont pas mandatés par ces jeunes-là pour aller parler à leur nom. Donc si on regarde le problème dans sa profondeur, le problème tourne autour de la jeunesse, parce que c'est les jeunes qui prennent les armes, c'est les jeunes qui ont plus de force à les combattre, et c'est les jeunes qui sont enrôlés dans les groupes djihadistes, comme on le constate ces derniers temps. C'est les jeunes aussi qui peuvent relever ces défis-là dont le Mali est confronté aujourd'hui. Donc, je voulais simplement dire que les jeunes sont acteurs. Ils ne devront pas être à l'écart de cette conférence d'entente nationale. Donc, le message de la jeunesse de Gao est clair, que tous les acteurs puissent se réunir et parler des vrais problèmes. Parce que tout ce problème, on peut simplement le lier dû au chômage grandissant de la jeunesse. Rien d'autre. Il y a un manque d'emploi. Si les gens n'ont pas d'emploi, ils vont forcément aller dans d'autres choses.
Ok. Voilà. Mme, la suite.
Oui, mais moi j'ai une question pour Mme Touré. Je voulais simplement vous demander aujourd'hui, ce processus de paix, il a atteint une nouvelle étape avec cette conférence. Quel regard vous portez sur cette étape? Aujourd'hui, on discute entre Maliens. C'est la grande famille, comme l'a dit le président de la République lors de l'ouverture. Et cette conférence doit mener sur l'élaboration de recommandations, notamment pour une charte pour l'unité et la réconciliation. Quel regard portez-vous sur le processus à ce moment précis?
Vous savez, à mon humble avis, cette conférence aurait dû se tenir pas en période de conflit. Nous sommes un État qui exerce une démocratie. un processus que nous ne maîtrisons pas. Même les gens qui ont décrété la démocratie et qui sont en avance sur nous ont des problèmes. C'est un processus de longue haleine. Mm-hmm. Tu t'en vas, ce qui ne t'arrange pas, tu l'enlèves et puis tu le réadaptes. C'est comme ce que les gens disent très généralement. Penser globalement et agir localement. Vous pouvez avoir des pensées au niveau global, mais dans l'application, avoir des mesures au niveau local. Parce que ce qui marchera à Gao ne marchera pas peut-être à Bougouni, etc. Mais c'est la même chose, mais avec des stratégies différentes. On doit donner cette latitude aux uns et aux autres. On a fait une démocratie au prix d'un conflit. Peut-être que ce n'est pas armé, mais les jeunes sont sortis, les femmes sont sorties, ils sont morts. On a eu des mouvements, il y a eu des reconnaissances, il y a eu des gouvernements qui sont venus. On aurait dû, à un moment donné, à partir du moment où il y a eu des morts, il y a eu vraiment tel ou tel, il faut qu'on revienne pour voir ce qu'on s'était décidé en mars 91. Est-ce que ça atteint les objectifs pour lesquels les gens sont sortis pour mourir? On ne l'a pas fait. Il y a eu un conflit. Le conflit est arrivé, chacun a ses interprétations. Et on a pris des gens en otage qui ne savaient pas pourquoi ce conflit. Il y a eu des interprétations, chacun parle de son côté. On s'accuse, les populations s'accusent des populations qui ont vécu très longtemps dans un système. Même si le système était défaillant, le système n'a pas coulé. C'est quand le système a coulé qu'on appelle les uns et les autres. Il y a eu effritement de beaucoup de choses, effritement de sentiments, effritement de famille, effritement social. Les esprits ne sont plus avec les cœurs, les gens ne sont plus. On a développé d'autres valeurs, valeurs d'égoïsme, valeurs d'élimination, valeurs de s'opposer pour s'opposer. Chacun cherche à être là où tu ne mérites pas d'être. Mais et les gagnants. Donc, moi je pense que aujourd'hui, arriver à une conférence d'entente nationale est un droit. Mm-hmm. Participer à cette conférence nationale est un devoir citoyen. Que chaque Malien doit se tenir. Venir parler du Mali, venir parler de la paix du Mali, venir parler de l'entente du Mali. Moi, je pense que ce processus a son sens. Et aujourd'hui, il faut le faire. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, l'histoire va nous juger.
Est-ce que le timing est bon pour vous? Est-ce que ça aurait pu être mieux préparé? Est-ce que ça aurait pu être plus représentatif? Justement, peut-être hier, on a une participante de Gao qui disait qu'il n'y avait que 10 représentants par région. Est-ce que cela suffit justement pour faire une entente, une conférence d'entente nationale?
Vous savez, moi je ne suis pas aux instances de prise de décision, je suis de la société civile, je me bats, je me débat comme cette femme de Gao qui l'a dit, comme les jeunes de Gao. Mais chaque jour, c'est la même répétition qu'on dit, amener les gens aux instances de prise de décision pour qu'ils soient légitimes, qu'ils représentent. On prend n'importe qui représente n'importe quoi. Sinon, les gens ont leurs représentants. Quand ils voient les représentants, ils sont représentés. Mmh. Il faut qu'on passe à la légitimité dans ce pays. Chacun, quand il y a un petit récipicé, tu t'autoproclames. Il y a un problème de légitimité. Même si 10 personnes viennent et que ces 10 personnes sont connues, mandatées socialement, responsabilisées, les gens vont se sentir concernés. Mais maintenant, si on ramasse 10 personnes à droite, à gauche, on les amène pour parler au nom des gens qui ne les connaissent pas, les gens ne sont pas là. Mais je pense que chaque chose commence par un. Mmh. On peut commencer, c'est une œuvre humaine. Elle est imparfaite, mais dire que ça n'a pas son sens, ce n'est pas juste. Attendre jusqu'à un parfait, on est dans un pays en guerre, on n'est pas dans un pays normal. Les ressources peuvent marquer, mais maintenant attendre jusqu'à ce qu'on nous finance tout ça en termes de je ne sais pas quoi, pour faire notre conférence d'entente nationale, ça peut attendre très longtemps. Je pense, commençons par ces 10, ces 20, les idées qui vont en sortir vont pouvoir être diffusées autrement et que les gens donneront leurs avis. On a beaucoup d'espace. Le premier truc du règlement du conflit a commencé par une grande conférence avec beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça a donné? Des défoulements.
Le micro.
La première conférence, je ne sais pas,
les
ça
assises.
S'appelait pas.
Les assises.
Voilà, les assises ou conférences, on joue avec les concepts. C'était amener les gens qui ne se voyaient pas très longtemps pour parler.
Madame, je voulais quand même savoir, il y a un mot qui revient chaque fois au cours de cette conférence, c'est le caractère inclusif. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, les travaux ont commencé lundi, est-ce que les femmes se sentent suffisamment représentées ici? Est-ce qu'on peut dire que la représentativité a été respectée au niveau des femmes?
Vous savez, tous ces concepts, quand les hommes aiment critiquer en disant vous amenez, les femmes vont amener des idées d'Europe, et ils consomment trop les concepts venant d'Europe. L'inclusivité, ça veut dire que les gens soient là. Depuis que notre société a été société, toutes les femmes ne vont pas là où on prend les décisions. Mais on prend des femmes sur des bases de critères, critères de sagesse, critères de je ne sais pas, d'âge, critères de femmes ménopausées qui est assez responsable. Elle va là où les décisions se prennent au nom de toutes les femmes acceptent. Venir en grand nombre, ça ne veut pas dire la qualité. Il peut y avoir une ou deux femmes et avoir la représentation de qualité. Donc nous pensons que inclusive, exclusive. Ça, c'est des termes, des concepts encore. Avant, c'était autre chose, conférence nationale éminemment participative. Okay. Aujourd'hui, c'est
Madame,
le mot inclusif.
Avec votre permission, nous observons une courte pause après la suite de ce débat.
Le grand dialogue.
Vous écoutez votre émission Le Grand Dialogue ou la table ronde qui se tient en direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba où se tiennent les travaux de la Conférence d'entente nationale. Le débat d'aujourd'hui réfléchit sur l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de paix. La question s'adresse aux représentants de la jeunesse de Kidal. Est-ce que au niveau de la jeunesse de Kidal, vous constatez que cette tribune est une opportunité pour exprimer vos préoccupations. Et quelles préoccupations allez-vous exprimer concrètement?
Merci beaucoup. Hier, si vous avez bien suivi lors de représentation des régions, je crois que Kidal a dit que nous, en tant que jeunes ou nous, en tant que Kidalois, il y a une chose qu'on n'a pas encore faite. Ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas rassemblé tous les jeunes de Kidal pour vraiment parler au nom de la jeunesse de Kidal. C'est important que cette jeunesse se voit et que tout le monde donne son avis et que ce soit un seul avis pour les Kidalois ainsi que pour tous les Maliens. Et sur ce, jusqu'à présent, nous sommes les premiers responsables des jeunes. Les gens nous ont appelés pour venir assister à cette conférence d'entente. On s'est touché parce que nous sommes tous maliens, nous sommes tous de la société civile et nous accompagnons l'État malien, nous sommes des côtés des mouvements armés, que ce soit plateforme CEMA, mais aussi il y a aussi ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse de Kidal, sinon à toute la population de Kidal, c'est qu'il n'y a pas de concertation, nous, au niveau local, ni au niveau régional, ainsi qu'au niveau national. C'était dit à une surprise qui a été faite pour nous de venir présenter cette jeunesse. Bien vrai que nous sommes des premiers responsables de cette jeunesse, mais aussi si tu parles au nom d'une jeunesse, il faut aussi concerter toute la jeunesse pour que la jeunesse donne son avis et que nous sommes des gens qui sont là à apporter le message de la jeunesse.
Oui, à Gao, comme dans d'autres localités, maman, excuse-moi, les jeunes se plaignent que ceux qui prétendent porter leur parole n'expriment pas forcément leurs préoccupations. Est-ce qu'à Kidal, c'est vraiment le cas?
À Kidal, je ne dirais pas c'est le même cas. À Kidal, quand même, je peux dire que...
Les groupes armés, ils sont représentatifs de vous?
Les groupes armés sont des représentatifs de la jeunesse. Il y a aussi des jeunes qui sont dans les groupes armés qu'il faut aussi consulter en tant que jeunes.
Quand certains groupes armés refusent, par exemple, que l'administration retourne à Kidal ou quand on empêche une délégation d'atterrir là-bas, vous reconnaissez en ces groupements-là, vous qui demandez le retour de l'État, l'emploi pour les jeunes?
Quand même, nous, dans ce sens, on n'est jamais sorti pour dire non à ce qui concerne le développement de la région de Kidal. Que ce soit l'État malien, que ce soit l'Union européenne ou autres partenaires. On n'est jamais dit non à l'arrivée de qui que ce soit sur la terre kidaloise. C'est quand même les jeunes. Je ne dirais pas que tous les jeunes, sinon les 50% des jeunes, sont des jeunes qui ne sont pas dans les groupes armés.
Aujourd'hui,
bien vrai qu'il y a aussi des clubs de jeunes qu'il faut consulter, qui sont dans les groupes armés. Ils sont tous Kidalois, ils ont leur plein droit aussi d'exprimer en tant que jeunes aussi de Kidal.
Et aujourd'hui, à quoi la jeunesse de Kidal, celle que vous représentez, en tout cas vous faites partie du collectif des jeunes, à quoi cette jeunesse elle aspire aujourd'hui? Quels sont ses rêves, puisque vous êtes ici à Bamako? À quoi vous aspirez?
Quand même, on est là au nom de notre association qui est le collectif des jeunes. Sinon, je ne vais pas dire que c'est moi le président de la jeunesse de Kidal. Mm-hmm. Il y a beaucoup de structures de jeunes qui sont des jeunes de Kidal, qui sont aussi présents dans cette conférence d'entente. Mais moi, personnellement, en tant que président de du collectif des jeunes de Kidal, nous sommes toujours dit que nous sommes du côté politique. Tout ce qui peut amener vraiment solution, ce qui peut apporter le soutien vraiment à tous nos frères, que ce soit CMA Plateforme, que ce soit l'État, quand même, nous, on fera tout pour apporter notre pierre à l'édifice, pour construire vraiment ce qui est aujourd'hui déchiré, que ce soit dans les côtés CMA Plateforme et l'État malien. Toujours quand on était sollicité par CEMA, on va à la CEMA. Quand on est sollicité par la plateforme, on va par la plateforme. Quand on est sollicité par l'État malien, c'est pareil.
Parce qu'on
se retrouve, on se retrouve tous en tant que frères. On regarde pas parce que si ils sont dans tel groupe armé, s'ils sont de l'État malien, ça on regarde pas. On se regarde en tant que frères.
Vous reconnaissez dans cette idée d'unité, de recherche de la paix, parce que vous avez quand même des divergences entre les différents groupes qui ne s'entendent pas. On a bien vu que la CEMA a pris le train en marche. Comment est-ce que vous jugez ce revirement?
Ça, quand même, par rapport à la prise de la CEMA, on cherche ça, quand même, ça me dépasse. Ça,
ou quand même, certains groupes armés de Kidal refusent que la plateforme entre à Kidal.
Voilà.
Ça, c'est une question entre les groupes armés.
Oui, mais ce sont les groupes armés.
Quand même, nous, les jeunes, ce qu'aujourd'hui nous arrange, c'est de se retrouver en tant que plateforme CEMA Mali ensemble à Kidal.
Vous voulez la paix, l'unité,
rien que la paix. Et okay. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là à présenter cette jeunesse, vraiment pour parler au nom de la paix et de la réconciliation entre les fils du pays.
OK, maman.
Alors justement, cette paix, cette réconciliation sur le terrain, elle a du mal à s'appliquer. On le voit depuis des mois et je demandais tout à l'heure à Madame Touré sur le point du processus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce processus? Est-ce qu'il avance assez vite ou bien est-ce qu'il est encore buté à des obstacles?
Moi, jusqu'à présent, j'entends de douter de la conférence d'entente. Est-ce qu'après la conférence d'entente, il n'y aura pas la même chose qu'on a fait après? Bien avant ça, là, on a bien fait les signatures. Il y a plus de deux ans et demi, nous avons fait les assises. On a aussi aujourd'hui, là, au nom de la conférence d'entente, et ceux qui sont venus prendre les trains en marche, est-ce que ces gens, ils vont accepter aussi le fait que les populations ne sont pas encore concertées, est-ce que tout ceci va aller dans le bon sens, hein? Mais moi, je dirais aussi, d'un côté, c'est le problème de l'État. Bien vrai que je suis malienne, mais il faut aussi se dire la vérité entre nous. L'État est en train de dire tout ce qu'elle est en train de dire. Il rassemble les gens jour par jour, des réunions jour par jour, des conférences d'entente, les assises, tout ça. Là. Mais après ça, il faut au moins aller vers l'impact. Il faut impacter dans la société. Mais il ne faut pas attendre seulement, non, on n'a pas ça, on n'a pas ces moyens, on va attendre. Bien vrai que je parle au contrôle de mon jeune frère de Gao qui est là. On ne peut pas aujourd'hui regrouper et désarmer les groupes armés qui vont les circuiser. Ça aussi, c'est un problème qui est là. Si aujourd'hui, nous, les jeunes ou les populations qui se trouvent au nord se déposent les armes, qui va sécuriser ces populations? Parce qu'on voit l'insécurité totale, pas seulement à Kidal ou à Gao, c'est partout au Mali. Ça aussi, il faut une solution pour ça.
D'accord. Maman, avec ta permission, et une question à l'adresse de Touré, représentant de la jeunesse de Gao. À Gao, quand même, il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps, la mise en place des autorités intérimaires et puis des violentes manifestations. Est-ce que vous aviez dit que vos préoccupations n'ont pas été prises en compte dans le processus des DDR? Et aujourd'hui, est-ce qu'on a franchi un pas dans cette lutte? Et ou bien où en sommes-nous? Jusqu'où vous êtes impliqué dans le processus en ce moment?
Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la jeunesse de Gao, à un moment donné, une partie de la jeunesse, bien sûr, à un moment donné, a eu à poser certains actes. Ce n'est pas simplement les DDR qui réclament. Ce n'est pas simplement les DDR. Ils réclament leur implication dans le processus de la mise en œuvre de l'accord, que ce soit même dans les grandes commissions. Ça fait partie de l'un de leurs points. Parce qu'ils se... Il se voit parce qu'il y avait eu une absence totale du gouvernement à un moment donné où, je peux me le permettre, c'est pas n'importe qui au nord du Mali qui pouvait réclamer, dire que je suis malien, je suis de la République du Mali, prendre le drapeau malien, ça, c'est les jeunes de Gao qui ont eu à le faire. Et cette jeunesse résilience dont vous entendez plusieurs fois le président de la République dire mes mots vont à l'endroit de la jeunesse résilience. Mais quel mot? À quelle fin? À quoi ça sert tout ça là? C'est juste des propos. Qu'est-ce que vous avez fait à ces jeunes-là qui ont réclamé le Mali lorsque le gouvernement n'était pas en place, lorsqu'il n'y avait pas d'armée, lorsqu'il n'y avait pas d'administration, qui ont réclamé? Parce qu'on peut se permettre aussi de le dire, je préfère le dire comme ça, qu'on s'est dit que c'est dû à la jeunesse de Gao qu'aujourd'hui ce pays-là n'est pas divisé. Parce qu'ils étaient les seuls, lorsqu'ils étaient entre des terroristes, ils étaient entre les gens qui ont voulu, les séparatistes, je préfère dire comme ça, ils étaient les seuls qui réclament être des républicains, des Maliens. C'était celle la jeunesse de Gao qui a réclamé ça. Et après, ils ont joué, et j'aimerais finir, après, ils ont joué le rôle même de l'administration. Vous voyez? Parce qu'il y avait des enfants qui étaient soit du Sud, qui ne pouvaient pas rester là-bas, ou pour certaines pratiques, c'était ces mêmes jeunes-là, ces mêmes notables-là qui ont fait en sorte que ces jeunes-là sont déplacés. Ils ont essayé par tous les mêmes moyens, là où on les a même qualifiés de collabos avec les groupes armés, avec les terroristes, qui c'était pas une collaboration dans le sens de pouvoir bien faire, de pouvoir protéger ces populations, de pouvoir protéger ses parents qui étaient restés là-bas. C'était ça la collaboration dont on parlait. Mais tout le temps, quand ils essayent de mettre les gens, se soulèvent et dire non. Et cette jeunesse est en train de réclamer son implication. Parce qu'ils se considèrent, comme je vous l'ai dit, je pense que le frère de Kidal vient de le dire, il n'est même pas allé dire les mots comme ça se doit, mais aucun groupe armé n'a été mandaté par aucune structure de jeunes pour aller parler à leur nom. Parce que, regardons simplement les choses en face. Que ce soit la CEMA, la plateforme, qui depuis 2 ans, il y a eu accord depuis 2 ans, qui d'entre eux a pu placer quelque chose de concret dans le cadre de l'accord pour dire que nous voulons vraiment la paix, nous voulons la santé pour nos communautés, nous voulons l'éducation pour nos enfants qui sont restés, parce que jusqu'à preuve du contraire, selon les informations que j'ai, il n'y a pas, l'éducation n'est pas effective au niveau de Kidal. Donc ces enfants,
justement,
ces femmes-là.
Touré, si vous le permettez, Vous avez parlé de division. Et l'une des problématiques attendues à cette conférence d'entente nationale, c'est la question de l'Azawad. Est-ce qu'en venant à Bamako, vous vous reconnaissez dans cet Azawad-là, réclamé comme territoire par certains? Et quel est le message que vous apportez sur la question de l'Azawad?
Ça, je pense que dans la déclaration, parce qu'il y a eu des concertations régionales, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr Kidal n'a pas eu la chance de faire ça, mais il y a eu ça à Gao. Je pense que la déclaration de Gao a été faite hier sur le micro. Gao ne se reconnaît pas dans l'Azawad. Gao, c'est... Il faut que je me présente, je suis Songoy. Et Gao se dit que c'est l'empire des Songoy, même Kidal y compris. Et même une partie du Niger, du Burkina Faso, du Dendi qu'on appelle récemment Bénin, c'est une ville historique. Et nous ne pourrons jamais nous reconnaître dans l'Azawad. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et même les gens qui sont en train de réclamer l'Azawad savent, parce qu'entre communautés du Nord, je pense qu'on se connaît très bien, ils ne vont jamais se mettre en tête que la population de Gao va s'appeler Azawad. Ça, c'est hors de question. Même lorsqu'ils étaient là-bas, tous les conflits qui ont été eu entre le MNLA, ce qui a valu même la sortie du MNLA en temps de crise dans la région de Gao, c'était ça. Parce que nous ne voyons pas dans l'Azawad. Nous sommes Songoy, nous resterons Songoy, peut-être dans le Mali avec sa diversité. Nous nous réclamons Songoy. La région de Gao s'appelle Gao, Gao d'Askia, Gao de Souni. L'Adrar des Iforas s'appelle l'Adrar des Iforas, Kidal, je ne sais pas, Tombouctou, la cité de Tassantara. Pourquoi chacun ne reste pas son nom? Je pense qu'il y a eu une décentralisation très forte. Et pour partir à l'indépendance, pourquoi ne pas passer par un référendum? Pourquoi ne pas passer par un référendum pour dire que, bon, voilà, les gens vont voter et dire que nous sommes à Azawad, nous voulons la division ou pas, parce qu'on est dans un pays démocratique, comme l'attentif vient de le dire. Donc, pourquoi on ne parle pas avec la procédure démocratique? Et à Gao, personne n'imposera soit son identité ou bien sa coloration pour les gens de Gao. Nous ne nous reconnaissons pas dans l'Azawad. Alors, et nous n'allons jamais nous reconnaître à l'Azawad.
D'accord. Alors, Madame Touré, rapidement, en 2 minutes, un mot sur cette question de l'Azawad avant la pause.
Voilà, moi, des journalistes m'ont posé la question. J'ai dit, comme nous sommes à la conférence d'entente nationale, c'est pour la première fois que tout le monde est là, c'est-à-dire ceux qui disent Azawad, ils vont nous expliquer. C'est-à-dire, nous sommes en démocratie, les mots jouent. C'est comme tout à l'heure, il a parlé d'inclusif. C'est un mot qui est venu ces derniers temps, sinon avant on dit éminemment participatif. Donc maintenant, comme les mots, ceux qui se disent Azawad, ils vont nous dire pourquoi ils s'appellent comme ça et qui est à l'Azawad. Et je pense que lors de la conférence, les gens vont donner leur point de vue. Il l'a dit, les concertations nationales, chacun a donné son point de vue. Et ici, là, je pense que tout ce qu'ils ne donneront pas comme argument pour que les gens puissent s'appeler Azawad, je pense que ça sera de la littérature et on deviendra Mali ou ce qu'on veut. Ce que les gens vont décider de devenir. Et je pense que le train va continuer comme le président de la République l'a dit.
Alors, on va marquer une courte pause et on reviendra parler de cette question de l'Azawad.
Le grand dialogue.
Je rappelle que vous écoutez le grand dialogue ou la table ronde à partir du palais de la culture Amadou Ampateba pour la conférence d'entente nationale. Madame la présidente de la CAFO, je reste avec vous pour cette question de justice. On en parle dans la réconciliation. On sait que lors de cette crise, principalement pendant l'occupation, beaucoup de femmes ont été victimes de violences au nord. Et quel est le message de justice que vous transmettez en termes d'interpellation à cette conférence d'entente nationale?
Vous savez, moi j'ai un problème avec mes interlocuteurs. Vous savez de qui je parle, les gens avec qui nous vivons. Parce que nous sommes dans une société. La société, c'est des catégories, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent ensemble. Nous sommes interdépendants parce que nous nous créons les uns les autres. Et je pense que tant que la société ne s'équilibre pas par rapport aux préoccupations, aux priorités des uns et des autres, nous sommes différents biologiquement. Les hommes, les femmes, ils ont des prédispositions et que chacun ait un rôle. Aujourd'hui, par rapport à ce processus que nous sommes en train de mener, y a certains qui pensent que c'est eux. Sans nous, ce processus ne se passera pas. Il y a d'autres qui pensent que nous sommes des victimes. Et ça, les femmes. Parce qu'on n'a jamais été consulté pour faire une guerre. On n'a jamais été consulté pour prendre des décisions en nos noms. On ne nous a jamais demandé, vous, votre avis, vous, femmes. On vient, on nous prend, on nous viole, on fait ce qu'on veut. On nous dit même de ne pas en parler. Parce que c'est indigne. C'est des pratiques qu'on ne connaît pas. Mais c'est des pratiques qu'on ne connaît pas qui se sont passées pendant ce conflit. Qui, si les Maliens, hommes et femmes, ne font pas attention, ça va jouer sur la qualité même de notre société. Donc quand des pratiques comme ça arrivent, qui sont indignes, qui touchent les filles, les femmes, les sœurs des gens, je pense que ce n'est pas une affaire de femmes. C'est pour cela que moi, je n'aime pas qu'on me pose ce problème en chose. En temps normal, quand on le fait, dans nos cultures, dans nos valeurs culturelles, l'homme est capable de tuer parce qu'on a violé sa sœur. C'est sa dignité dont il parle. Donc je ne voudrais pas qu'on féminise. On a violé des femmes, il faut que justice soit faite. Que ce soit la justice sociale. Parce qu'avant, pourquoi nous, les femmes, nous aimons beaucoup la justice sociale? Parce que là, quand quelqu'un le fait, c'est un sacrilège. Il quitte le village. La norme sociale le renvoie. Aujourd'hui, où on a une justice moderne, une justice qui doit être imbue des droits de l'homme. Je pense que quand on viole une femme, qu'on abuse d'une femme, il faut sanctionner.
Bon, on a vu quand même que dans la mise en œuvre de l'accord, beaucoup de libérations ont été faites, des arrangements politiques pour donner une chance à la paix et à la réconciliation. Des acteurs qui étaient détenus et libérés suite à des étapes de mise en œuvre de l'accord. Est-ce que quand vous assistez à ces libérations de présumés auteurs, vous n'avez pas peur qu'on marche sur la justice?
Moi, je pense que ça, ce n'est pas une histoire de justice, c'est une histoire de positionnement, de maintenir un pouvoir, d'équilibrer un pouvoir. La justice voudrait qu'on punisse tout homme, tout être humain, tout le monde n'est au-dessus de la justice. Bon, je pense comme vous-même, vous avez eu à le dire, c'est des arrangements qui vont se déranger plus tard. Parce que quand quelqu'un commet une faute, 20 ans, 40 ans après, l'histoire va te rattraper. Même ta tombe, on peut le verrouiller pour montrer à l'humanité que celui-là a violé des femmes. Donc nous attendons cette justice.
Okay.
Alors moi j'avais une question pour notre ami de Kidal, de savoir cette question justement de la justice. Qu'est-ce que la jeunesse en pense? Est-ce que vous êtes saisi de cette question?
Moi d'abord, je vous remercie pour la question, une question très pertinente. Et sur ces questions, Je dirais, pour faire de la paix, s'il faut juger tous ceux qui sont rebellés de 1960 à nos jours, on n'irait pas là où nous sommes aujourd'hui. Si on est venu pour faire une paix, il faut faire une paix. Et après la paix, il faut commencer à faire la justice. Sinon, dire de juger tout le monde, ah, peut-être moi, je ne serai pas parmi vous. Je serai dans une prison en train de me juger.
Pardonnez-moi de vous couper. Est-ce qu'on ne peut pas faire la justice avant la paix ou bien c'est plutôt la paix après la justice?
Je crois aujourd'hui, il faut faire la paix.
D'abord.
Il faut faire la paix. La paix, c'est priorité. Si on a la paix, on peut faire la justice. Mais faire la justice avant la paix, pour moi, personnellement, je ne trouve pas ça très bien. Et quand vous dites aujourd'hui à ceux qui sont les plus forts aujourd'hui au nord, c'est des groupes armés. Oui. Faire la justice, ils ne seront pas avec vous dans la salle pour débattre la question de la conférence d'entente nationale. Que ce soit plateforme, que ce soit CEMA.
Est-ce qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé?
Est-ce que c'est facile, justement, d'oublier?
Ce n'est pas facile d'oublier, mais il faut oublier. Il faut oublier. C'est important d'oublier pour faire la paix. Ouais. La paix n'a pas de prix. Quand on dit qu'elle n'a pas de prix, donc il y a d'autres, beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans cette crise du Nord. Ils ne savent pas pourquoi ils sont rentrés. Parce que nous, en tant qu'étoirés, quand on entend les noms rebelles, tout le monde est rebelle. Parce que même ici à Bamako, quand on voit un Touareg qui connaît même pas ce qui veut dire rebelle, les gens nous disent nous sommes des rebelles. Mais quand même, pour un rebelle aussi,
il faut faire justice. Des gens qui sont rentrés dedans justement pour se faire justice, parce qu'il y a eu des faits antérieurs et qui sont rentrés justement parce qu'ils estiment que justice doit être faite.
Quand même, pour faire la justice, d'abord pour moi, j'ai dit il faut faire la paix. Plus important, c'est après la paix qu'il faut aussi faire de la justice après la paix. Sinon, dire de faire la justice avant la paix, je ne trouve pas ça très bien. Personnellement, mon avis d'aide.
Touré, est-ce qu'il faut tout oublier pour que la paix soit une réalité ou bien qu'est-ce qu'il faut?
C'est une question vraiment très pertinente. Moi, je dirais non. Pourquoi oublier? On ne peut pas oublier. Ce n'est même pas possible d'oublier. Peut-être qu'on peut pardonner, mais jamais oublier. On n'oublie pas parce que moi qui est victime, qui n'a pas demandé à ce qu'on fasse une rébellion et que j'étais victime, on a violé ma sœur devant moi, on m'a privé de ma moto dans la circulation. Et des fois, on me prive même de ma montre qui se trouve dans ma main parce que tu avais une arme. Moi, je vais réclamer justice. Je dirais qu'il faut avoir, oui, la justice. Il faut avoir la justice. Mais la justice ne va pas empêcher à ce que nous partons vers la paix. Le plus important présentement, c'est d'avoir la paix. Et que les bourreaux, ceux qui ont eu à commettre ces atrocités, je pense qu'ils devront d'abord reconnaître leur faute. Pour moi, hein, parce que je le fais dans un cadre un peu plus coutumier ou peut-être traditionnel, comme naît des Maliens. On a des très bons cœurs, chose que je suis fier et j'aimerais bien le dire ainsi. On est des Maliens, on a des cœurs un peu souples, on peut pardonner. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître leurs fautes et demander pardon à ces victimes-là. Peut-être que pas les viols ou bien les crimes contre l'humanité, les grands atrocités qui ont été faites, mais il y a certaines, comme le frère l'a dit, il y a certaines jeunes qui, c'est par ignorance ou par manque d'emplois qui sont retrouvés dans ces groupes-là. S'ils n'ont pas commis des grands crimes, je pense qu'il suffit de reconnaître et que les gens puissent se pardonner et partir ensemble. Mais ça serait très difficile qu'on ait une paix durable aussi sans une bonne justice. Ça serait très difficile. Parce qu'on ne va pas, parce que les gens sont pressés d'avoir la paix, on va vers la paix et on laisse cette justice en place. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que nous, à Gao, un moment où on était... parce que je tiens à vous dire que j'ai vécu la crise, toute la crise. Et du début jusqu'à la fin, je suis parti nulle part. Je suis resté à Gao vivre. Il y a eu des moments où, quand on te rencontre dans la rue avec une moto de Jakarta, on te le prive. On te prive carrément de ta moto. Et il y a eu des moments où la faim a commencé à rattraper ces groupes armés. Ils prenaient même les marmites des gens dans leur famille qui sont sur le feu. Bon, pour montrer que nous avons le pouvoir, nous avons la force et on fait ce qu'on veut. Et vous pensez que ces gens-là, on peut les laisser comme ça sans pourtant faire une justice? Et ceux qui ont été victimes, est-ce qu'ils vont laisser passer? Est-ce qu'ils vont oublier? Non. On peut pardonner, mais jamais oublier. On ne va pas oublier. Vous avez vu qu'il y a tellement de groupes maintenant qui ont commencé à se... Même cette grande organisation des différentes communautés du Nord, auparavant, ça n'existait pas. Donc, plus on commet ce genre d'actes, plus on va même faire face à des guerres intercommunautaires. Parce que d'autres communautés vont dire qu'ils ont été victimes, voici, c'est des revanches, des trucs comme ça. Et voilà ce que ça va. Donc, il faut forcément une justice pour qu'on ait une paix durable. Donc, moi, je suis pour la justice.
OK.
Alors, Madame Touré, donc cette question de la justice, c'est vrai, elle fait partie quand même des dispositions de l'accord. Vous ne voulez pas qu'on vous la pose en termes de justice des femmes, mais plutôt en termes de justice sociale. Il y a un moment, il faudra vraiment régler cette question. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça n'entrave pas le processus de paix?
Vous savez, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Hein. Bon, moi, j'ai participé à certaines et d'autres, j'ai vu les conclusions. Et les gens sont arrivés au constat qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut faire valoir les deux formes de justice qui ont existé. La justice des normes, comme il vient de le dire, là où on a le pardon. Tu sais que chez nous ici, même quelqu'un peut tuer ton père et on te parle, on te dit c'est Dieu, on fait intervenir les imams, tout le monde, on te sensibilise, tu pardonnes. Mais tu n'oublies pas que ton père a été tué par tel ou tel. Bon, l'esprit de vengeance, tu le laisses, tu attends Dieu d'après ce qu'il y a. Cette justice existe. Donc je pense que dans beaucoup de réflexions, on a dit, pour régler ce problème, il faut faire appel. Il faut faire appel à cette forme de justice. Il y a aussi la justice aussi des droits de l'homme. C'est pas une question malienne, c'est une question universelle. Quand on commet un crime, quand on commet une faute qui est indigne, parce que les nations ne sont pas dans un cercle fermé. J'ai l'impression que les gens pensent que le Mali est un pays unique, autonome, on n'a de compte à rendre à personne. On peut ne pas rendre compte au gouvernement malien, mais on va rendre compte au gouvernement international. Nous nous sommes engagés dans beaucoup de processus qui n'acceptent pas ces formes de violation. Je pense que ce soit maintenant, que ce soit après, si la paix doit venir après rendre justice, je pense que la justice doit faire son travail. Nul n'a le droit de violer une femme et de rester impuni. C'est pas possible.
Alors, juste avant, ce débat va bientôt toucher à sa fin. Je voudrais poser la question à chacun de vous. Comment est-ce que vous pouvez vous impliquer encore plus, vous, en tant que représentant de la jeunesse de Gao et vous de Kidal? Et Madame Touré aussi, comment s'impliquer encore plus dans ce processus de paix? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux que qu'on ne fait déjà?
Agali, rapidement. Agali, oui. On est à 2 minutes de la fin.
D'accord. Donc, vraiment, ce que moi je vais dire au nom de la jeunesse de Kidal, et sinon particulièrement au nom du collectif des jeunes de Kidal, et je dirais qu'il faut aller vers la paix. Que ce soit la justice va faire son travail dans les jours à venir, il faut aussi faire la paix. Que c'est toujours après la paix qu'on peut aussi faire la justice. Et sur ce, je ne vais pas laisser mon grand frère de Gao, lorsqu'ils disent que les groupes armés, tant, ils ont rentré dans les familles pour prendre aussi les marmites, les manger dans la famille. Je dirais que ce n'est pas des groupes armés, mais plutôt c'est des bandits qui ont toujours fait de faire beaucoup de choses sur même les routes. Par exemple, la route Bamako-Ségou, Bamako-Gao, chaque jour qu'il fait, il y a des bandits qui sont là en train de faire de n'importe quoi. Ils sont en train de tiller les gens, prendre leurs biens et tout ça. Là. Mais une groupe de mouvements comme SEMA, Plateforme, je ne crois pas si ça c'est trop petit pour eux de les faire. Et je ne crois pas que c'est ces groupes armés qui font, plutôt c'est des bandits qui font ça.
Ok, on nous fait signe que le temps imparti est malheureusement arrivé à terme. C'est sur ces mots que prend fin ce numéro du Grand Dialogue et de la table ronde de Mikado pour en parler et pour le débat d'aujourd'hui, le thème apporté sur le rôle des jeunes et des femmes dans le processus de paix. Et pour en parler, nous recevions Madame Oumou Touré, présidente de la CAFO. Dada Ag Agali, président du collectif des jeunes de Kidal, Bonkana Issa Touré, cette fois-ci c'est bon, et représentant de la jeunesse de Gao. Merci, chers invités, d'avoir effectué le déplacement. Merci à nos auditeurs et bonne soirée chez vous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat sur votre radio.